Lucien Leven, troisième volume. Chapitre 48. Maman, pardonnez-moi toutes les choses communes que je vais dire avec emphase, dit Lucien à sa mère en la quittant sur les 9 heures. En entrant à l'hôtel Grandet, Lucien examinait curieusement ce portier, cette cour, cet escalier, au milieu desquels il allait manœuvrer. Tout était magnifique, cher, mais trop neuf. Dans l'antichambre, un paravent de velours bleu garni de ses clous d'or et un peu usé eût dit aux passants « Ce n'est pas d'hier seulement que nous sommes riches. » Mais un Grandet pense à faire une spéculation sur les paravents et non à ce qu'ils disent aux passants dans une antichambre. Lucien trouva Madame Grandet en petit comité. Il y avait 7 à 8 personnes dans l'élégante rotonde où elle recevait à 7 heures. Il était de bonne heure, trop tôt pour venir chez Madame Grandet. Lucien le savait bien, mais il voulait faire acte d'un cœur bien épris. Elle examinait, avec des bougies que l'on plaçait successivement sur tous les points, un buste de Cléopâtre de Ténérani, que l'ambassadeur du roi à Rome venait de lui envoyer. L'expression de la reine d'Égypte était simple et noble. Toutes ses lignes faisaient des phrases et l'admiraient. Elle illumine leur air commun, se dit Leven. Toutes ces grosses mines à cheveux grisonnants ont l'air de dire « Oh, quels bons appointements j'ai !» Un député du centre, complaisant, attaché à la maison, proposa une poule au billard. Lucien reconnut la grosse voix, qui, à la chambre, est chargée de rire, quand, par hasard, on fait quelques propositions généreuses. Madame Grandet sonna avec empressement pour faire allumer le billard. Tout semblait, à Lucien, avoir une physionomie nouvelle. « Il est bon à quelque chose, pensa-t-il, d'avoir des projets, quelque ridicule qu'il soit. Elle a une taille charmante, et le jeu de billard donne 100 occasions de se placer dans les poses les plus gracieuses. » Il est étonnant que les convenances religieuses du faubourg Saint-Germain ne se soient pas encore avisées de proscrire ce jeu. Au billard, Lucien commença à parler, et ne cessa presque pas. Sa gaieté augmentait à mesure que le succès de ses propos communs et lourds venait chasser l'image de l'embarras que devait lui causer l'ordre de faire la cour à Madame Grandet. D'abord, ses propos furent trop communs. Il se donnait le plaisir de se moquer lui-même de ce qu'il disait. C'était de l'esprit d'arrière-boutique, des anecdotes imprimées partout, des nouvelles de journaux, etc. « Elle a des ridicules, » pensa-t-il, « mais cependant elle est accoutumée à un certain taux d'esprit. Il faut des anecdotes ici, mais moins usées, des considérations lourdes sur des sujets délicats, sur la tendresse de Racine comparée à celle de Virgile, sur les contes italiens où Shakespeare a pris le sujet de ses pièces. Il ne faut jamais de mots vifs et rapides, ils passeraient inaperçus. Il n'en est peut-être pas de même des regards, surtout quand on est bien amoureux. » Et il considéra, avec une admiration assez peu dissimulée, les charmantes poses dans lesquelles se plaçait Madame Grandet. Grand Dieu, qu'eût dit Madame de Chastelet si elle eût surpris un de ses regards. Mais il faut l'oublier pour être heureux ici, se dit Leven. Et il éloigna cette idée fatale, mais pas assez vite pour que son regard n'eût pas l'air fort ému. Madame Grandet le regardait elle-même d'une façon assez singulière. Point tendre, il est vrai, mais assez étonnée. Elle se rappelait vivement tout ce que Madame de Thémines lui avait appris quelques jours auparavant de la passion que Lucien avait pour elle. Elle s'étonnait d'avoir trouvé si ridicule les idées réveillées par le récit de Madame de Thémines. « Réellement, il est présentable, » se disait-elle. « Il a beaucoup de distinctions. » À la poule, le hasard avait donné à Lucien la bille numéro 6. Un grand jeune homme silencieux, apparemment adorateur muet de la maîtresse de la maison, eut le 5, et Madame Grandet le numéro 4. Leven essaya de tuer le 5, réussit et se trouva par là chargé de jouer sur Madame Grandet et de la faire perdre, ce dont il s'acquitta avec assez de grâce. Il tentait toujours les coups les plus difficiles et avait le malheur de ne jamais faire la bille de Madame Grandet et de la placer presque toujours dans une position avantageuse. Madame Grandet était heureuse. La chance de gagner une poule de 20 francs, se dit Lucien, donnerait-elle de l'émotion à cette âme de femme de chambre, hôte d'un si beau corps? La poule va finir. Voyons si ma conjecture est fondée. Lucien se laissa tuer. Alors, ce fut au numéro 7 à jouer sur Madame Grandet. Ce numéro était tenu par un préfet en congé, grand hableur et porteur de toutes les prétentions, même de celle de bien jouer au billard. Ce fa montrait une exaltation de mauvais goût à parler des coups qu'il allait faire, à menacer Madame Grandet de faire sa bille ou de la mal placer. Madame Grandet, voyant son sort tellement changé par la mort de Leven, prit de l'humeur. Les coins de sa bouche si fraîche se serrèrent entre ses dents. « Ah, voilà sa manière d'être piquée !» se dit Lucien. Au troisième mauvais coup que lui donnait le préfet impitoyable, Madame Grandet regarda Lucien avec l'expression du regret. À quoi Lucien osa répondre en regardant avec l'expression du désir les jolies poses auxquelles Madame Grandet s'abandonnait au milieu de sa douleur de perdre. Lucien, tout mort qu'il était, se donnait beaucoup de mouvements autour du billard et suivait les billes de Madame Grandet avec l'anxiété du plus vif intérêt. Il prit son parti avec une vivacité affectée et assez plaisante, dans une chicane mal fondée qu'elle fit au préfet Hableur, qui était resté seul avec elle et prétendait gagner. Bientôt Madame Grandet perdit la poule, mais Lucien avait fait de tels progrès dans son esprit qu'elle jugea à propos de lui adresser une petite dissertation géométrique et profonde sur les angles que forment les billes d'ivoire en frappant les bandes du billard. Lucien fit des objections. « Ah, vous êtes élève de l'école polytechnique, mais vous êtes un élève chassé, et sans doute vous n'êtes pas très fort en géométrie. » Lucien invoqua des expériences. On mesura des distances sur le billard. Madame Grandet eut l'occasion d'étaler de charmants petits mots de surprise et de jolis éclats de voix. Une fois, Lucien se dit « Voici tout ce que j'aurais pu demander à Mademoiselle Gosselin. » De ce moment, il fut vraiment bien. Madame Grandet ne quitta les expériences que pour lui offrir de faire une partie de billard avec elle. Il était piquant pour elle-même, parce qu'il l'étonnait. « Je n'en reviens pas, » se disait-elle. « Grand Dieu, comme la timidité donne la physionomie d'un sot à l'homme le plus aimable !» Sur les 10 heures, il vint assez de monde. On avait l'usage de présenter à Madame Grandet la plupart des personnages un peu marquants qui passaient à Paris. Il ne manquait à sa collection que les artistes tout à fait crottés ou les grands seigneurs tout à fait de la première volée. Aussi, la présence à Paris de ceux-ci, annoncée par les journaux, lui donnait-elle de l'humeur, et quelquefois elle se permettait contre eux des propos semi-républicains qui désolaient son mari. Ce mari, tout bouffi de la faveur du roi de son choix, arriva avec un ministre sur les 10h30. Bientôt survint un second ministre, et sur ses pas, les 3 ou 4 députés les plus influents dans la chambre. 5 ou 6 savants qui se trouvaient là se mirent à faire bassement la cour au ministre et même aux députés. Ils eurent bientôt pour rivaux 2 ou 3 littérateurs célèbres, un peu moins plats dans la forme et peut-être plus esclaves au fond, mais cachant leur bassesse sous des formes de parfaite urbanité. Ils débitaient d'une voix périodique et adoucie des compliments indirects et admirables de délicatesse. Le préfet Hableur fut terrifié de ce langage et se tut. « Voilà les gens dont on se moque à la maison, » se dit Lucien. « Ici, ils sont les admirés. » La plupart des noms célèbres de Paris parurent successivement. « Il ne manque ici que les hommes d'esprit qui ont la folie d'être de l'opposition. Comment peut-on estimer assez les hommes, cette matière sale, pour être de l'opposition ? Mais au milieu de tant de célébrités, mon règne va finir, » pensa Leven. À ce moment, Madame Grandet vint, du bout du salon, lui adresser la parole. « Voilà une impertinence !» se dit-il en riant. « Où diable a-t-elle pris cette attention délicate ? Est-ce qu'elle doit se permettre de telles choses ? Serais-je duc, sans le savoir ?» Le député était devenu abondant dans le salon. Lucien remarqua qu'il parlait haut et cherchait à faire du bruit. Ils levaient le plus possible leur tête grisonnante et essayaient de se donner des mouvements brusques. L'un posait sa belle boîte d'or sur la table où il jouait, de façon à faire tourner la tête à trois ou quatre voisins. Un autre, s'établissant sur sa chaise, la faisait se mouvoir à chaque instant sur le parquet, sans égard pour les oreilles de ses voisins. « Leur mine, » se dit Lucien, « a toute l'importance du gros propriétaire qui vient de renouveler un bail avantageux. » Celui qui se remuait avec tant de bruit sur sa chaise vint un instant après dans la salle de billard et demanda à Leven la Gazette de France qu'il lisait. Il pria pour ce petit service d'un air si bas que notre héros en fut tout attendri. Cet ensemble lui rappela Nancy. Ses yeux devinrent fixes et très ouverts, toute l'expression d'urbanité de la bouche tomba. Lucien sortit de sa rêverie parce qu'on riait beaucoup à ses côtés. Un écrivain, célèbre, contait une anecdote fort plaisante sur l'abbé Barthélemy, auteur du Voyage d'Anacharsis. Puis vint une anecdote de Marmontel. Ensuite, une troisième sur l'abbé de Lille. Le fond de cette gaieté est sec et triste. Ces gens d'académie, pensa Lucien, ne vivent que sur les ridicules de leurs prédécesseurs. Ils mourront banqueroutiers envers leurs successeurs. Ils sont trop timides même pour faire des sottises. Il n'y a rien ici de la joyeuse folie que je trouvais chez Madame d'Aucuncourt quand Dantin nous mettait en train. Au commencement d'une quatrième anecdote sur les ridicules de Thomas, Lucien n'y put tenir et regagna le grand salon par une galerie garnie de bustes que l'on tenait moins éclairée. Dans une porte, il rencontra Madame Grandet, qui lui adressa encore la parole. « Je serais un ingrat si je ne me rapprochais pas de son groupe, au cas qu'il lui prenne envie de faire à la Madame de Staël. » Lucien n'eut pas longtemps à attendre. On avait présenté ce soir-là à Madame Grandet un jeune savant allemand à grands cheveux blonds séparés au milieu du front, et horriblement maigre. Madame Grandet lui parla des savantes découvertes faites par les Allemands. Homère n'a peut-être fait qu'un épisode de la collection de chansons si célèbres sous son nom et dont la savante ordonnance, fruit du hasard, est si admirée par le pédant. Madame Grandet parla très bien de l'école d'Alexandrie. On faisait tout à fait cercle autour d'elle. On en vint aux antiquités chrétiennes. Madame Grandet prit un air sérieux. Les coins de sa bouche s'abaissèrent. Cet Allemand, nouvellement présenté, ne se mit-il pas à attaquer la messe en parlant à une bourgeoise de la cour de Louis-Philippe ? Ces Allemands sont les rois de l'inconvenance. La messe n'était au Ve siècle, disait-il, qu'une réunion où l'on rompait le pain en commun en mémoire de Jésus-Christ. C'était une sorte de thé de gens bien pensants. Il n'entrait dans l'idée de personne que l'on fît actuellement quelque chose de sérieux, de différent le moins du monde d'une action ordinaire, et encore moins que l'on fît un miracle, le changement du pain et du vin dans le corps et le sang du Sauveur. Nous voyons peu à peu se taire des premiers chrétiens, augmenter d'importance et la messe se former. Mais grand Dieu, où voyez-vous cela, monsieur ? Disait Madame Grandet effrayée. Apparemment dans quelques-uns de vos auteurs allemands. Ordinairement, pourtant, si amis des idées sublimes et mystérieuses, et par là, si chéris de tout ce qui pense bien. Quelques-uns se seront égarés, et leur langue, malheureusement si peu connue de mes légers compatriotes, les met à l'abri de toute réfutation. Non, madame, les Français aussi sont fort savants, reprenait le jeune dialecticien allemand, qui apparemment, pour avoir le plaisir de faire durer les discussions, avait appris des formes très polies. Mais, madame, la littérature française est si belle, les Français autant de trésors, qu'ils sont comme des gens trop riches, ils ignorent leurs trésors. Toute cette histoire véritable de la messe, je l'ai trouvée dans le père Mabillon, qui vient de donner son nom à une des rues de votre brillante capitale. À la vérité, ce n'est pas dans le texte de Mabillon, le pauvre moine n'osait pas, mais dans les notes. Votre messe, madame, est une invention d'hier. C'est comme votre Paris, qui n'existait pas au Ve siècle. Madame Grandet avait répondu jusque-là par des phrases entrecoupées et insignifiantes, sur quoi notre Allemand, relevant ses lunettes, répondit aux phrases par des faits, et, comme on les lui contestait, par des citations. Le monstre avait une mémoire étonnante. Madame Grandet était excessivement contrariée. « Comme Madame de Staël, se disait-elle, eût été belle dans ce moment, au milieu d'un cercle si nombreux et si attentif. Je vois au moins 30 personnes qui nous écoutent. Et moi, grand Dieu, je vais rester sans un mot à répondre. Et il est trop tard pour se fâcher. » En comptant les auditeurs, qui, après s'être moqués de l'étrange tournure de l'Allemand, commençaient à l'admirer, précisément à cause de sa dégaine étrange et de sa façon nouvelle de relever ses lunettes, les yeux de Madame Grandet rencontrèrent ceux de Lucien. Dans sa terreur, elle lui demanda presque grâce. Elle venait d'éprouver que ses regards les plus enchanteurs n'avaient aucun effet sur le jeune Allemand, qui s'écoutait parler et ne voyait rien. Lucien vit dans ce regard suppliant un appel à sa bravoure. Il perça le cercle, vint se placer auprès du jeune dialecticien allemand. « Mais, monsieur... » Il se trouva que cet Allemand n'avait point trop peur des plaisanteries et de l'ironie française. Lucien avait un peu trop compté sur ce moyen. Et enfin, comme il ne savait pas le premier mot de cette question, et ne savait pas même en quelle langue Mabillon avait écrit, il fut battu. À une heure, Lucien quitta cette maison où l'on avait tout fait pour chercher à lui plaire. Son âme était desséchée. Les idées de l'homme, de l'anecdote du littérateur, de la discussion savante, des formes admirablement polies, lui faisaient horreur. Ce fut avec délices qu'il se permit un tête-à-tête d'une heure avec le souvenir de Madame de Chastelet. Les hommes, dont il venait de voir la fleur ce soir-là, était fait pour le faire douter de la possibilité de l'existence d'être comme Madame de Chastelet. Ce fut avec délice qu'il retrouva cette image chérie. Elle avait comme la grâce de la nouveauté, qui est l'unique chose, peut-être, qui manque au souvenir de l'amour. Les gens de lettres, les savants, les députés qu'il venait de voir, n'avaient garde de paraître dans le salon horriblement méchant de Madame Leven. On s'y fut moqué d'eux tout en plein. Là, tout le monde se moquait de tout le monde. Tant pis pour les sots et pour les hypocrites, qui n'avaient pas infiniment d'esprit. Les titres de duc, de pair de France, de colonel de la garde nationale, comme l'avait éprouvé M. Grandet, n'y mettaient personne à l'abri de l'ironie la plus gaie. « Je n'ai rien à demander à la faveur des hommes, gouvernants et gouvernés, » disait quelquefois M. Leven dans son salon. « Je ne m'adresse qu'à leur bourse. C'est à moi de leur prouver, dans mon cabinet, le matin, que leur intérêt et le mien sont les mêmes. Hors de mon cabinet, je n'ai qu'un intérêt, me délasser et rire des sots, qu'ils soient sur le trône ou dans la crotte. Ainsi, mes amis, moquez-vous de moi si vous pouvez. » Toute la matinée du lendemain, Lucien travailla à tâcher d'y voir clair dans une dénonciation sur Alger faite par un monsieur Gandin. Le roi avait demandé un avis motivé à monsieur le comte de Vèze, qui avait été d'autant flatté que cette affaire regardait le ministère de la guerre. Il avait passé la nuit à faire un beau travail, puis avait fait appeler Lucien. « Mon ami, critiquez-moi cela impitoyablement, » avait-il dit en lui remettant son cahier fort barbouillé. « Trouvez-moi des objections. J'aime mieux être critiqué en secret par mon aide de camp que par mes collègues en plein conseil. À mesure que vous ne vous servirez plus d'une de mes pages, faites-la copier par un commis discret. N'importe l'écriture. Comme il est fâcheux que la vôtre soit si détestable. Réellement, vous ne formez pas vos lettres. Ne pourriez-vous pas tenter une réforme ? Est-ce qu'on réforme l'habitude ? Si cela se pouvait, combien de voleurs qui ont 2 millions deviendraient honnêtes gens ? Ce Gandin prétend que le général lui a fermé la bouche avec 1 500 louis. Au reste, mon cher ami, j'ai besoin du mi honnête de mon rapport et de votre critique avant 8 heures. Je veux mettre cela dans mon portefeuille, mais je vous demande une critique sans pitié. Si nous pouvions compter que votre père ne tirerait pas une épigramme des trésors de la Casbah, je paierais au poids de l'or son avis sur cette question. » Lucien feuilletait la minute du ministre qui avait 12 pages. « Pour tout au monde, mon père ne lirait pas un rapport aussi long, et encore il faudra vérifier les pièces. » Lucien trouva que cette affaire était aussi difficile, pour le moins, que l'origine de la messe. À 7h30, il envoya au ministre son travail, qui était au moins aussi long que le rapport du ministre, et le mit au net de celui-ci. Sa mère avait fait naître des accidents pour prolonger le dîner, et à son arrivée, il n'était pas fini. « Qui t'amène si tard ?» dit monsieur Leven. « Son amitié pour sa mère, » répondit madame Leven. « Certainement, il eût été plus commode pour lui d'aller au cabaret. Que puis-je faire pour te marquer ma reconnaissance ? » dit-elle à son fils. « Engagez mon père à me donner son avis sur un petit opuscule de ma façon que j'ai là dans ma poche. » Et l'on parla d'Alger, de Casbah, de 48 millions, de 13 millions volés, jusqu'à 9h30. « Et madame Grandet ?» dit monsieur Leven. « Je l'avais tout à fait oublié. » Chapitre 49. Leven était tout homme d'affaires ce jour-là. Il courut chez madame Grandet, comme il serait allé à son bureau pour une affaire en retard. Il traversa lestement la cour, l'escalier, l'antichambre, en souriant de la facilité de l'affaire dont il allait s'occuper. Il avait le même plaisir qu'à retrouver une pièce importante, un instant égaré au moment où on la chercherait pour la joindre à un rapport au roi. Il trouva madame Grandet entourée de ses complaisances ordinaires, et le mépris éteignit ce sourire de jeunesse. Ces messieurs disputaient. Un monsieur Grélin, référendaire à la cour des comptes, moyennant 12 000 francs comptés à la cousine de la maîtresse du comte de Vèze, s'enquérait si l'épicier du coin, M. Béranville, qui avait la fourniture de l'état-major de la garde nationale, oserait mécontenter de si bonne paix et voter dans le sens de son journal. Un de ces messieurs, jésuite avant 1830 et maintenant lieutenant de grenadiers, décoré, venait de dire qu'un des commis de Béranville était abonné au National, ce qu'il n'eût certes osé faire si son patron avait eu toute l'horreur convenable pour cette rhapsodie républicaine et désorganisatrice. Chaque mot diminuait sensiblement, aux yeux de Lucien, la beauté de Madame Grandet. Pour comble de misère, elle se mêlait fort à cette discussion, qui n'eût pas déparé la loge d'un portier. Elle voulait que l'épicier fût menacé indirectement de destitution par le tambour de la compagnie de grenadiers, qu'elle connaissait fort. Au lieu de jouir de leur position, ces gens-ci s'amusent à avoir peur, comme mes amis les gentilshommes de Nancy, et par-dessus le marché, ils me font mal au cœur. Lucien était à mille lieues du sourire de jeunesse avec lequel il était entré dans ce salon magnifique, qui se changeait à ses yeux en sale loge de portier. Sans doute la conversation de mesdemoiselles de l'opéra est moins ignoble que ceci. Quelle drôle d'époque! Ces Français si braves, dès qu'ils sont riches, s'occupent à avoir peur. Mais peut-être ces âmes nobles du juste milieu sont-elles incapables de sérénité tant qu'il y a un danger possible au monde? Et il ne les écouta plus. Il aperçut seulement alors que Madame Grandet le recevait très fraîchement. Il en fut amusé. « J'avais pensé, se disait-il, que ma faveur durerait bien 15 jours. En moins de temps encore, cette tête légère se fatigue d'une idée. » Le ton leste et tranchant des raisonnements de Lucien eût été bien ridicule aux yeux d'un homme politique. C'était lui qui était une tête légère. Il n'avait point deviné le caractère de Madame Grandet. Cette femme, si jeune, si fraîche, si occupée des peintures à fresque de sa galerie d'été, imitée de Pompeia, était presque continuellement absorbée dans les calculs de la politique la plus profonde. Elle était riche comme une Rothschild et voulait être une Montmorency. Ce jeune Leven, maître des requêtes, n'est pas mal. Si la moitié de son mérite réel s'échangeait en position acquise dans le monde, et que personne ne puisse nier, il serait bon à quelque chose dans le monde. Tel qu'il paraît, là, avec cette tournure simple jusqu'à la naïveté, et pourtant noble, il conviendrait assez à une de ces petites femmes qui songent à la galanterie, et non à se faire une position élevée. Et elle eut horreur de cette façon de penser vulgaire. Cela n'a point de nom. C'est un petit jeune homme, fils d'un banquier riche, et qui s'est acquis la réputation d'homme d'esprit par sa méchante langue. Monsieur Lucien est tout simplement un débutant dans la carrière où Monsieur Grandet est si avancé. Il n'a pas de nom, pas de parenté considérable et bien établie dans le monde. Il est hors de son pouvoir de rien ajouter à ma position. Toutes les fois que Monsieur Leven sera invité aux Tuileries, je le serai aussi, et avant lui. Il n'a jamais été admis à l'honneur de danser avec les princesses. Telles étaient les idées que Madame Grandet cherchait à vérifier en regardant Lucien, pendant qu'il la croyait tout occupée de la faute de Monsieur l'épicier Béranville et des moyens de l'en punir en lui ôtant la pratique de l'état-major de la garde nationale. Madame Grandet se dit tout à coup, presque en riant, mouvement rare chez elle. S'il a pour moi cette passion que Madame de Thémines lui prête, si généreusement je pense, il faut le rendre tout à fait fou. Et pour cela, le régime des rigueurs convient peut-être à ce beau jeune homme, et certainement me convient beaucoup. Au bout d'une demi-heure, Lucien, se voyant décidément reçu avec une froideur marquée, se trouva à l'égard de la belle Madame Grandet dans la situation d'un connaisseur qui marchand d'un tableau médiocre. Tant qu'il compte l'avoir pour quelques louis, il s'exagère ses beautés. Les prétentions du vendeur s'élèvent-elles outre mesure? Le tableau devient ridicule aux yeux du connaisseur. Il ne voit plus que des défauts et n'y songe que pour s'en moquer. « Je suis ici, se dit Leven, pour avoir une grande passion aux yeux de ces nigauds. Or, que fait-on quand, dévoré par un amour violent, on se voit mal reçu par une aussi jolie femme? On tombe dans la plus sombre et silencieuse mélancolie. » Et il ne dit plus mot. Comme le monde connaît les passions! continua-t-il en souriant sur lui-même et devenant réellement mélancolique. Quand j'étais, ce me semble, dans l'état que je joue, personne ne faisait plus de bruit au café Charpentier. Lucien resta sur sa chaise, cloué dans la plus louable immobilité. Par malheur, il ne pouvait fermer les oreilles. Sur les 10 heures, arriva à grand bruit M. de Torpé, jeune ex-député, fort bel homme, et rédacteur éloquent d'un journal ministériel. « Avez-vous lu le messager, madame ? » dit-il en s'approchant de la maîtresse de la maison d'un air commun, presque familier, et comme prenant acte de sa familiarité avec une jeune femme dont le monde s'occupait. « Avez-vous lu le messager ? Ils ne peuvent répondre à ces quelques lignes que j'ai lancées ce matin sur l'exaltation et le dernier période des idées de ces réformistes. J'ai traité en quelques mots l'augmentation du nombre des électeurs. L'Angleterre en a 800 000, et nous 180 000 seulement. Mais si je jette un coup d'œil rapide sur l'Angleterre, que vois-je avant tout? Quelle sommité frappe mes yeux de son éclat brillant? Une aristocratie puissante et respectée. Une aristocratie qui a des racines profondes dans les habitudes de ce peuple sérieux avant tout, et sérieux parce qu'il est biblique. Que vois-je de ce côté du détroit? Des gens riches pour tout potage. Dans 2 ans, l'héritier de leur richesse et de leur nom sera peut-être à Sainte-Pélagie. » Ce discours, si bien adressé à une riche bourgeoise, femme riche dont la grand-mère n'avait pas eu de voiture, amusa d'abord Lucien. Mais malheureusement, M. de Torpé ne savait pas avoir de l'esprit en 4 lignes. Il lui fallait de longues périodes. « Ce gascon impudent se croit obligé de parler comme les livres de M. de Chateaubriand, » se disait Lucien impatienté. Il dit 2 petits mots qui, expliqués à cet auditoire, eussent pu devenir une plaisanterie. Mais il s'arrêta tout court. « Je sors de la grande passion. Le silence et la tristesse conviennent à la réception que me fait Madame Grandet. » Lucien, obligé de se taire, entendit tant de sottises, et surtout vit tant de sentiments bas étalés avec orgueil, qu'il eut le sentiment d'être dans l'antichambre de son père. « Quand ma mère a des laquais qui parlent comme M. de Torpé, elle les renvoie. » Il prit en grippe les ornements élégants du petit salon ovale de Madame Grandet. Il avait tort. Rien n'était plus élégant et moins vaudeville. Sans la forme ovale et quelques ornements gais placés exprès par l'architecte, ce salon délicieux eût été un temple. Les artistes, entre eux, eussent dit « Il est sur le bord du sérieux ». Mais l'impudence de M. de Torpé gâtait tout aux yeux de Lucien. La jeunesse, la fraîcheur de la maîtresse de la maison, quoique relevée par le mauvais accueil qu'elle lui faisait, lui semblèrent convenir à une femme de chambre. Lucien continuait à se croire philosophe, et il ne voyait pas que, tout simplement, il avait l'impudence en horreur. C'était cette qualité poussée à l'extrême par M. de Torpé, et si indispensable au succès, qui lui donnait un dégoût si voisin de la colère. Cette horreur, pour une qualité nécessaire, était le symptôme qui alarmait le plus M. Leven père sur le compte de son fils. « Il n'est pas fait pour son siècle, » se disait-il, « et ne sera jamais qu'un plat homme de mérite. » Lorsqu'arriva la proposition de l'inévitable poule, Lucien vit que M. de Torpé se disposait à prendre une bille. Lucien avait réellement l'oreille offensée par la voix éclatante de ce bel homme. À force de dégoût, Lucien ne se sentit pas réellement la force de marcher autour du billard, et il sortit silencieusement avec la démarche lente qui convient au malheur. « Il n'est que 11 heures, » se dit Lucien avec joie, et pour la première fois de la saison, il courut à l'opéra avec l'envie d'y arriver. Il trouva Mademoiselle Raymonde dans la loge grillée de son père. Elle était seule depuis un quart d'heure et mourait d'envie de parler. Lucien l'écouta avec un plaisir qui le surprit. Il fut charmant pour elle. « C'est là le véritable esprit !» se disait-il dans son engouement. « Comme cela tranche avec l'emphase lente et monotone du salon Grandet !»« Vous êtes charmante, belle Raymonde, ou du moins je suis charmée. Contez-moi donc la grande histoire de la dispute de madame avec son mari et le duel. » Pendant que sa petite voix douce et bien timbrée parcourait les détails en sautillant rapidement, « Comme ils sont lourds et tristes, se répondant les uns aux autres par de fausses raisons, et dont le parleur comme l'écouteur sentent le faux. Mais ce serait choquer toutes les convenances de cette confrérie que de ne pas se payer de fausses monnaies. Il faut gober je ne sais combien de sottises et ne pas se moquer des vérités fondamentales de leur religion. » « Où tout est perdu. » Il dit gravement, « Auprès de vous, ma belle Raymonde, un monsieur de Torpé est impossible. »« D'où revenez-vous ? » lui dit-elle. Il continua, « Avec votre esprit naturel et hardi, vous vous moqueriez de lui tout de suite. Vous mettriez en pièces son emphase. Quel dommage de ne pas pouvoir vous faire déjeuner ensemble. » Mon père serait digne d'être de ce déjeuner. Jamais votre vivacité ne pourrait supporter ces longues phrases emphatiques, qui sont le ton parfait pour les gens de bonne compagnie de la province. » Notre héros se tut et pensa. « Ne ferais-je pas bien, se dit-il, de transférer ma grande passion de Madame Grandet à Mademoiselle Essier ou à Mademoiselle Gosselin ? Elles sont fort célèbres aussi. » Mademoiselle Essier n'a ni l'esprit ni l'imprévu de Raymonde, mais même chez Mademoiselle Gosselin, un Torpé est impossible. Et voilà pourquoi la bonne compagnie, en France, est arrivée à une époque de décadence. Nous sommes arrivés au siècle de Sénèque et n'osons plus agir et parler comme du temps de Madame de Sévigné ou du Grand Comté. Le naturel se réfugie chez les danseuses. Qui me sera le moins à charge pour une grande passion, Madame Grandet ou Mademoiselle Gosselin? Suis-je donc condamné à écrire des sottises le matin et à en entendre encore le soir? » Au plus fort de cet examen de conscience et de la folie de Mademoiselle Raymonde, la porte de la loge s'ouvrit avec fracas pour donner passage à un non moindre personnage que son Excellence Monsieur le Comte de Vèze. « C'est vous que je cherchais, » dit-il à Lucien avec un sérieux qui n'était pas exempt d'importance. « Mais cette petite fille est-elle sûre ?» Quelque bas que ce dernier mot fut prononcé, Mademoiselle Raymonde le saisit. « C'est une question que l'on ne m'a jamais faite impunément, » s'écria-t-elle. Et puisque je ne puis chasser votre Excellence, je remets ma vengeance à la chambre prochaine. » Et elle s'enfuit. « Pas mal, » dit Lucien en riant, « réellement pas mal. » « Mais peut-on, quand on est dans les affaires et dans les plus grandes, être aussi léger que vous ?» dit le ministre avec l'humeur naturelle à l'homme qui, embrouillé dans des pensées difficiles, se voit distrait par une fadaise. « Je me suis vendu corps et âme à votre Excellence pour les matinées, mais il est 11 heures du soir, et parbleu, mes soirées sont à moi. Et que m'en donnerez-vous si je les vends ?» dit Lucien gaiement encore. « Je vous ferai lieutenant, de sous-lieutenant que vous êtes. » « Hélas, cette monnaie est fort belle, mais par malheur je ne sais qu'en faire. » « Il viendra un moment où vous en sentirez tout le prix. » Mais nous n'avons pas le temps de faire de la philosophie. Pouvez-vous fermer cette loge ? » ?»« Rien n'est plus facile, » dit Lucien en poussant le verrou. Pendant ce temps, le ministre regardait si l'on pouvait entendre des loges voisines. Il n'y avait personne. Son Excellence se cacha soigneusement derrière la colonne. « Par votre mérite, vous vous êtes fait mon premier aide-de-camp, » dit-il d'un air grave. Votre place n'était rien, et je vous y avais appelé pour faire la conquête de monsieur votre père. Vous avez créé la place. Elle n'est point sans importance, et je viens de parler de vous au roi. » Le ministre s'arrêta, s'attendant à un grand effet. Il regarda attentivement Lucien, et ne vit qu'une attention triste. « Malheureuse monarchie !» pensa le comte de Vèze. « Le nom du roi est dépouillé de tout effet magique. Il est réellement impossible de gouverner avec ces petits journaux qui démolissent tout. Il nous faut tout payer argent comptant ou par des grades. Et cela nous ruine. Le trésor, comme les grades, ne sont pas infinis. » Il y eut un petit silence de 10 secondes, pendant lesquelles la physionomie du ministre prit un air sombre. Dans sa première jeunesse, à Koblenz, où il était, les trois lettres R, O, I avaient encore un effet étonnant. « Est-ce qu'il va me proposer une affaire Caron ?» se disait Lucien. « En ce cas, l'armée n'aura jamais un lieutenant nommé Leuven. » « Mon ami, dit enfin le ministre, le roi approuve que je vous charge d'une double mission électorale. « Encore les élections ? Je suis ce soir comme monsieur de Pourceaugnac. » « Votre Excellence n'ignore pas, répondit-il d'un ton très ferme, que ces missions-là ne sont pas précisément tout ce qu'il y a de plus honorable aux yeux d'un public abusé. « C'est ce que je suis loin d'accorder, dit le ministre. Et permettez-moi de vous le dire, j'ai plus d'expérience que vous. » Ce dernier mot fut lancé avec une assurance de mauvais ton. Aussi, la réponse ne se fit-elle pas attendre. « Et moi, monsieur le comte, j'ai moins de dévouement au pouvoir, et je supplie votre Excellence de confier ces sortes de missions à un plus digne. » « Mais, mon ami, répliqua le ministre en contenant son orgueil de ministre, c'est un des devoirs de votre place. De cette place dont vous avez fait quelque chose. En ce cas, j'ai une seconde prière à ajouter à la première, celle d'agréer ici ma démission et mes remerciements de vos bontés pour moi. Malheureux principe monarchique, dit le ministre comme se parlant à soi-même. Il ajouta du ton le plus poli, car il ne lui convenait nullement de se séparer de Leuven et de son père. « Souffrez que je vous dise, mon cher monsieur, que je ne puis parler de cette démission qu'avec monsieur votre père. »« Je voudrais bien, reprit Lucien après un petit instant, ne pas être obligé à chaque instant d'avoir recours au génie de mon père. S'il convient à votre Excellence de m'expliquer ses missions, et qu'il n'y ait pas de combat de la rue Transnonain au fond de cette affaire, je pourrais m'en charger. » « Je gémis comme vous des accidents terribles qui peuvent arriver dans l'emploi trop rapide de la force la plus légitime. Mais vous sentez bien qu'un accident déploré et réparé autant que possible ne prouve rien contre un système. Est-ce qu'un homme qui blesse son ami à la chasse est un assassin ?»« Monsieur de Torpé nous a parlé pendant une grande demi-heure ce soir » de cet inconvénient exagéré par la mauvaise presse. Torpé est un sot, et c'est parce que nous n'avons pas de Leuven, ou qu'il manque de liant dans le caractère, que nous sommes forcés quelquefois d'employer des torpés. Car enfin, il faut bien que la machine marche. Les arguments et les mouvements d'éloquence pour lesquels ces messieurs sont payés ne sont pas faits pour des intelligences telles que la vôtre. Mais dans une armée nombreuse, tous les soldats ne peuvent pas être des héros de délicatesse. Mais qui m'assurera qu'un autre ministre n'emploiera pas en mon honneur précisément les mêmes termes dont votre Excellence se sert pour faire le panégyrique de monsieur de Torpé ? Ma foi, mon ami, vous êtes intraitable ! Ceci fut dit avec naturelle et bonhomie. Et Lucien était si jeune encore que ce ton amena la réponse. « Non, monsieur le comte, car pour ne pas chagriner mon père, je suis prêt à prendre ses missions, s'il n'y a pas de sang au bout. » Parce que nous avons le pouvoir de répandre du sang, dit le ministre avec un ton de voix bien différent, et où il y avait du reproche et presque du regret. Ce mot venant du cœur frappa Lucien. « Voilà un inquisiteur tout trouvé, » se dit-il. « Il s'agit de deux choses, » reprit le ministre avec un ton de voix tout administratif. « Il faut mesurer ses termes et chercher à ne pas blesser notre Leven, » se disait le ministre. « Et voilà à quoi nous en sommes réduits avec nos subalternes. Si nous en trouvons de respectueux, ce sont des hommes douteux, prêts à nous vendre au National ou à Henri V. « Il s'agit de deux choses, mon cher aide de camp, » continua-t-il tout haut. « Allez faire une opposition à Champagné, dans le Cher, où monsieur votre père a de grandes propriétés. Parlez à vos hommes d'affaires, et par leur secours, devinez ce qui rend la nomination de monsieur Blondeau si incertaine. Le préfet, monsieur de Riquebourg, est un brave homme très dévot, très dévoué, mais qui me fait l'effet d'un imbécile. Vous serez accrédité auprès de lui. Vous aurez de l'argent à distribuer sur les bords de la Loire, et de plus, 3 débits de tabac. Je crois même qu'il y a aussi 2 directions de la poste aux lettres. Le ministre des Finances ne m'a pas encore répondu à cet égard, mais je vous dirai cela par le télégraphe. De plus, vous pourrez faire destituer à peu près qui vous voudrez. Vous êtes sage, vous userez de tous ces droits avec discrétion. Ménagez l'ancienne noblesse et le clergé. Entre eux et nous, il n'y a que la vie d'un enfant. Point de pitié pour les républicains, surtout pour ces jeunes gens qui ont reçu une bonne éducation et n'ont pas de quoi vivre. Le Mont-Saint-Michel ne les tient pas tous. Vous savez que mes bureaux sont pavés d'espions. Vous m'écrirez les choses importantes sous le couvert de monsieur votre père.
Mais l'élection de Champagné ne me chagrine pas infiniment. Monsieur Malot, le libéral rival du Blondeau, est un hâbleur, un exagéré. Mais il n'est plus jeune et s'est fait peindre en uniforme de capitaine de la garde nationale, bonnet de poil en tête. Ce n'est point un homme du parti sombre et énergique. Pour me moquer de lui, j'ai dissous sa garde 8 jours après. Un tel homme ne doit pas être insensible à un ruban rouge qui ferait un bel effet dans son portrait. Dans tous les cas, c'est un hâbleur imprudent et vide qui, à la Chambre, fera tort à son parti. Vous étudierez les moyens de capter Malot en cas de non-réussite pour le fidèle Blondeau. Mais la grande affaire, c'est quand, dans le Calvados, vous donnerez 1 jour ou 2 aux affaires de Champagné, et vous vous rendrez en toute hâte à Caen. Il faut à tout prix que M. Mérobert ne soit pas élu. C'est un homme de tête et d'esprit. Avec 12 ou 15 têtes comme cela, la Chambre serait ingouvernable. Je vous donne à peu près carte blanche en argent. Place à accorder et destitution. Ces dernières seules pourraient être contrariées par 2 pairs, des nôtres, qui ont de grands biens dans le pays. Mais dans tous les cas, la chambre des pairs n'est pas gênante, et je ne veux à aucun prix de monsieur Mérobert. Il est riche, il n'a pas de parents pauvres, et il a la croix. Ainsi, rien à faire de ce côté-là. Le préfet de Caen, monsieur Boucaud, à tout le zèle qui ne vous brûle pas. Il a fait lui-même un pamphlet contre M. Mérobert, et il a eu l'étourderie de le faire imprimer là-bas, dans le chef-lieu de sa préfecture. Je viens de lui ordonner, par le télégraphe de demain matin, de ne pas distribuer un seul exemplaire. Comme M. Mérobert est puissant dans l'opinion, c'est là qu'il a fallu l'attaquer. M. de Torpé a composé un autre pamphlet, dont vous prendrez 300 exemplaires dans votre voiture. Nos faiseurs ordinaires, messieurs C et F, ont fait 2 pamphlets dont l'impression sera terminée ce soir à minuit. Tout cela n'est pas fort et coûte fort cher. Le pamphlet de Desternier, qui est injurieux et emporte la pièce, m'a coûté 600 francs.
L'autre, qui est fin, ingénieux et de bonne compagnie, à ce que dit l'auteur, me coûte 50 louis. Vous lancerez l'un ou l'autre de ces pamphlets, ou tous les deux, suivant les circonstances. Les normaux sont bien fins. Enfin, vous serez le maître de distribuer ou de ne pas distribuer ces pamphlets. Si vous voulez en faire un vous-même, ou tout neuf, ou extrait des autres, selon les dispositions où vous verrez les esprits, vous m'obligerez sensiblement. Enfin, faites tout au monde pour empêcher l'élection de M. Mérobert. Écrivez-moi 2 fois par jour. Je vous donne ma parole d'honneur que je lirai vos lettres au roi.
Lucien se mit à sourire. Anachronisme, monsieur le comte. Nous ne sommes plus au temps de Samuel Bernard. Que peut le roi pour moi en choses raisonnables? Quant aux distinctions, monsieur de Torpé dîne tous les mois 1 fois ou 2 avec leur majesté. Réellement, les récompenses, bribes de séduction, manquent à votre monarchie.
Pas tant que vous croyez. Si monsieur Mérobert est nommé, malgré vos bons et loyaux services, vous serez lieutenant. S'il n'est pas nommé, vous serez lieutenant d'état-major avec le ruban.
Monsieur de Torpé n'a pas manqué de nous apprendre ce soir qu'il est officier de la Légion d'honneur depuis 8 jours. Apparemment à cause de son grand article sur les maisons ruinées par le canon à Lyon. Au reste, je me souviens du conseil donné par le maréchal Bournonville au roi d'Espagne, Ferdinand VII. Il est minuit. Je partirai à 2 heures du matin.
Bravo, bravo, mon ami. Faites vos instructions dans le sens que j'ai dit et vos lettres au préfet et aux généraux. Je signerai tout à 1h30 avant de me coucher. Probablement, il faudra que je passe encore cette nuit pour ces diables d'élections. Ainsi, ne vous gênez pas. Vous aurez le télégraphe.
Est-ce à dire que je pourrais vous écrire à l'insu des préfets ? Sans leur communiquer ma dépêche?
À la bonne heure, mais ils la connaîtront toujours par l'homme du télégraphe. Il faudrait tâcher de ne pas cabrer les préfets. S'ils sont bonnes gens, ne leur communiquez que ce que vous voudrez. S'ils sont disposés à jalouser votre mission, ne les cabrez pas. Il ne faut pas diviser notre armée au moment du combat.
Je compte agir prudemment, mais enfin, puis-je correspondre par le télégraphe avec votre Excellence sans communiquer mon dire au préfet?
Oui, j'y consens, mais ne vous brouillez pas avec les préfets. Je voudrais que vous eussiez 50 ans au lieu de 26.
Votre Excellence est bien libre, assurément, de choisir un homme de 50 ans qui peut-être serait moins sensible que moi aux injures des journaux.
Je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Si votre orgueil veut me permettre la gratification, vous l'aurez, et considérable. En un mot, il faut réussir. Mon opinion particulière est qu'il vaut mieux dépenser 500 000 francs et ne pas avoir Mérobert devant nous à la chambre. C'est un homme tenace, sage, considéré, terrible. Il méprise l'argent et en a beaucoup. En un mot, on ne peut rien voir de pis.
Je ferai mon possible pour vous en préserver.
Sur ce mot, dit très froidement, le ministre quitta la loge. Il dut rendre le salut à 50 personnes et serrer 8 ou 10 mains avant d'arriver à sa voiture, dans laquelle il fit monter Lucien.
Tirez-vous de cette affaire aussi bien que de celle de Cortis,
dit-il à Lucien, qu'il voulut absolument conduire place de la Madeleine. Et je dirai au roi que l'administration n'a aucun sujet qui vous soit supérieur.
Et vous n'avez pas 25 ans. Vous pouvez aller à tout.
Je ne vois que 2 obstacles. Aurez-vous le courage de parler devant 400 députés, dont 300 imbéciles? Saurez-vous vous garantir du premier mouvement, qui chez vous est terrible?
Surtout, tenez-vous ceci pour dit et dites-le au préfet. N'en appelez jamais à ces sentiments prétendus généreux et qui tiennent de trop près à l'insubordination des peuples.
Ah ! Dit Lucien avec douleur.
Qu'est-ce ?
Ceci n'est pas flatteur. Rappelez-vous que votre Napoléon n'en voulut pas, même en 1814, quand l'ennemi avait passé le Rhin.
Pourrais-je emmener M. Koff, qui a du sang-froid pour deux?
Mais je resterai seul.
Seul avec 450 commis, par exemple M. Desbac.
C'est un petit coquin trop malléable qui trahira plus d'un ministre avant d'être conseiller d'État. Je voudrais tâcher de n'être pas un de ces ministres. C'est pourquoi je réclame votre concours malgré vos aspérités.
Desbac, c'est exactement votre opposé.
Mais cependant, emmenez qui vous voudrez, même M. Koff.
Pas de Mérobert à aucun prix.
Je vous attends avant 1h30.
Heureux temps que la jeunesse pour son activité.
Et Leven monta chez sa mère. On lui donna la calèche de voyage de la maison de banque qui était toujours prête, et à 3 heures du matin, il était en route pour le département du Cher. La voiture était encombrée de pamphlets électoraux. Il y en avait partout, et jusque sur l'impériale. À peine y avait-il place pour Leven et Koff. Ils arrivèrent à Blois à 6 heures du soir et s'arrêtèrent pour dîner. Tout à coup, ils entendirent un grand vacarme devant l'auberge.
« C'est quelqu'un qu'on eut, » dit Leven à Koff.
« Que le diable les emporte, » dit celui-ci froidement. L'hôte entra tout pâle.
« Messieurs, sauvez-vous, on veut piller votre voiture. »«
Et pourquoi ?» dit Leven.
« Ah, vous le savez mieux que moi. »
« Comment ?» dit Leven furieux, et il sortit vivement du salon qui était au rez-de-chaussée. Il fut accueilli par des cris assourdissants. « Ah, bas l'espion ! Ah, bas le commissaire de police !»
Rouge comme un coq, il prit sur lui de ne pas répondre et voulut s'approcher de sa voiture. La foule s'écarta un peu. Comme il ouvrait la portière, une énorme pelletée de boue tomba sur sa figure, et de là, sur sa cravate. Comme il parlait à M. Koff dans ce moment, la boue entra même dans sa bouche. Un grand commis aux favoris rouges, qui fumait tranquillement au balcon du premier étage, chargé de tous les voyageurs qui se trouvaient dans l'hôtel et qui dominait la scène de fort près, dit en criant au peuple
« Voyez comme il est sale! Vous avez mis son âme sur sa figure !»
Ce propos fut suivi d'un petit silence, et puis accueilli par un éclat de rire général qui se prolongea dans toute la rue avec un bruit assourdissant et dura bien 5 minutes. Comme Leven se retournait vivement vers le balcon et levait les yeux pour chercher à deviner parmi tant de figures riant d'un rire affecté celle de l'insolent qui avait parlé de lui, 2 gendarmes au galop arrivèrent sur la foule. Le balcon fut vide en un instant, et la foule se dissipa rapidement par les rues latérales. Leven, ivre de colère, voulut rentrer dans la maison pour chercher l'homme qui l'avait si insulté. Mais l'hôte avait barricadé toutes les portes, et ce fut en vain que notre héros y donna des coups de poing et de pied. Pendant ses tentatives, il avait derrière lui le brigadier de gendarmerie.
« Filez rapidement, messieurs !»
disait ce fonctionnaire d'un ton grossier et riant lui-même de l'état où la boue avait mis le gilet et la cravate de Leven.
« Je n'ai que 3 hommes. Ils peuvent revenir avec des pierres. »
On mettait les chevaux en toute hâte. Leven était fou à force de colère et parlait à Koff qui ne répondait pas et tâchait, à l'aide du grand couteau du cuisinier, d'ôter le plus gros de la boue fétide dont les manches de son habit étaient couvertes.
« Il faut que je retrouve l'homme qui m'a insulté !» répétait Leven pour la 5e ou 6e fois.
« Dans le métier que nous faisons, vous et moi, »
répondit enfin Koff d'un fort grand sang-froid, « il faut secouer les oreilles et aller en avant. » L'hôte survint. Il était sorti de son auberge par une porte de derrière et ne put ou ne voulut répondre à Leven qui demandait le nom du grand jeune homme qui l'avait insulté.
« Payez-moi, monsieur, cela vaudra mieux. C'est 42 francs. »«
Vous vous moquez de moi? Un dîner pour 2, 42 francs ?»
« Je vous conseille de filer, » dit le brigadier. « Ils vont revenir avec des tronçons de choux. » Et Levaine remarqua que l'autre remerciait le brigadier du coin de l'œil.
« Mais comment avez-vous l'audace ? » dit Lucien.
« Monsieur, allons chez le juge de paix si vous vous croyez lésé, » dit l'hôte avec l'assurance insolente d'un homme de cette classe. « Tous les voyageurs de mon hôtel ont été effrayés. Il y a un Anglais et sa femme qui ont loué la moitié du premier pour 2 mois. Il m'a déclaré que je recevais chez moi des... »
L'hôte s'arrêta tout court.
« Des quoi ? » dit Levaine, pâle de colère, et courant à la voiture pour prendre son sabre. « Enfin, monsieur, vous m'entendez, » dit l'hôte, « et l'Anglais m'a menacé de déloger. »«
Délogeons, » dit Koff, « voici le peuple qui revient. »
Il jeta 42 francs à l'hôte, et l'on partit.
« Je vous attendrai hors de la ville, » dit-il au brigadier. « Je vous ordonne de venir m'y joindre. »
« Ah, j'entends !» dit le brigadier, souriant avec mépris. « Monsieur le commissaire a peur. Je vous ordonne de prendre une autre rue que moi et de m'attendre en dehors de la porte.
« Et, » dit-il au postillon, « vous traverserez la foule au pas. »
La foule commençait à paraître au bout de la rue. Arrivé à 20 pas de la foule, le postillon prit le galop, malgré les cris de Levaine. La boue et les tronçons de choux volaient de tous côtés dans la calèche. Malgré le brouhaha épouvantable, ces messieurs eurent le plaisir d'entendre les plus sales injures. En approchant de la porte, il fallut mettre les chevaux au trot à cause du pont fort étroit. Il y avait 8 ou 10 criards sous la même porte, qui étaient doubles.
« Allô ! Allô ! » criait-il.
« Ah, c'est le lieutenant Levaine !» dit un homme en capote verte déchirée, apparemment l'ancien congédié.
« Allô, Levaine ! Allô, Levaine » cria-t-on à l'instant.
On criait à 2 pas de la calèche sous la porte, et les cris redoublèrent dès que la calèche fut à 6 pas en dehors. À 200 pas plus loin, tout était calme. Le brigadier arriva bientôt.
« Je vous félicite, messieurs, » dit-il au voyageur. « Vous l'avez échappé belle. »
Son air goguenard acheva de mettre Levaine hors de lui. Il lui ordonna de lire son passeport et ensuite
« Quelle peut être la cause de tout ceci ?» lui dit-il.
« Eh, monsieur, vous le savez mieux que moi. Vous êtes le commissaire de police qui vient pour les élections. » Vos papiers imprimés que vous aviez mis sur l'impérial de votre calèche sont tombés en entrant en ville, vis-à-vis le café Ramblin, c'est le café national. On les a lus, on vous a reconnus, et ma foi, il est bien heureux qu'il n'ait pas eu de pierre.
Monsieur Koff monta tranquillement sur le siège de devant de la calèche.
En effet, il n'y a plus rien, dit-il à Levaine en regardant sur l'impérial.
« Ce paquet perdu était-il pour le cher ou pour M. Mérobert ?»«
Contre M. Mérobert, » dit Koff. « C'est le pamphlet de Torpé. »
La figure du gendarme, pendant ce court dialogue, désolait Levaine. Il lui donna 20 francs et le congédia. Le brigadier fit 1000 remerciements.
« Messieurs, » dit-il, « les Blaisois ont la tête chaude. » « Les messieurs comme vous autres ne traversent ordinairement la ville que de nuit. »«
Fous-moi le camp !» lui dit Levaine.
« Et toi, marche au galop !» dit-il au postillon.
« Eh, n'ayez pas tant de peur !» répondit celui-ci en ricanant. « Il n'y a personne sur la route !»
Au bout de 5 minutes de galop.
« Eh bien, Koff !» dit Levaine à son compagnon en se tournant vers lui.
« Eh bien, » répondit Koff froidement, « le ministre vous donne le bras au sortir de l'opéra, les maîtres des requêtes, les préfets en congé, les députés à entrepôt de tabac envient votre fortune. Ceci est la contrepartie, c'est tout simple. »«
Votre sang-froid me ferait devenir fou, » dit Levaine, ivre de colère.
« Ces indignités, ce propos atroce, son âme est sur sa figure. Cette boue!
Cette boue, c'est pour nous la noble poussière du champ d'honneur.
Cette huée publique vous comptera. Ce sont les actions d'éclat dans la carrière que vous avez prise, et où ma pauvreté et ma reconnaissance me portent à vous suivre.
C'est-à-dire que si vous aviez 1 200 francs de rente, vous ne seriez pas ici?
Si j'avais 300 francs de rente seulement, je ne servirais pas le ministère, qui retient des milliers de pauvres diables dans les horribles cachots du Mont-Saint-Michel et de Clairvaux.
Un profond silence suivit cette réponse trop sincère, et ce silence dura pendant 3 heures. À 600 pas d'un village dont on apercevait le clocher pointu s'élever derrière une colline nue et sans arbres, Leven fit arrêter.
« Il y aura 20 francs pour vous, » dit-il au postillon, « si vous ne dites rien de l'émeute. »«
À la bonne heure, 20 francs, c'est bon, je vous remercie. » Mais, notre maître, votre figure si pâle de la venette que vous venez d'avoir, mais votre belle calèche anglaise couverte de boue, ça va sembler drôle, on jasera, ce ne sera pourtant pas moi qui aurai parlé.
Dites que nous avons versé, et aux gens de la poste qu'il y a 20 francs pour eux s'ils attellent en 3 minutes. Dites que nous sommes des négociants courant pour une banqueroute.
« Et être obligé de nous cacher, » dit Leven à Koff.
« Voulez-vous être reconnu ou n'êtes pas reconnu ?»«
Je voudrais être à 100 pieds sous terre, ou avoir votre impassibilité. »
Leven ne dit mot pendant qu'on attelait. Il était immobile au fond de la calèche, la main sur ses pistolets, apparemment mourant de honte et de colère. Quand ils furent à 500 pas du relais,
« Que me conseillez-vous, Koff ? »
dit-il les larmes aux yeux en se tournant vers son taciturne compagnon. « Je veux envoyer ma démission de tout et vous céder la mission. Ou, si cela vous contrarie, je manderai M. Desbach. Moi, j'attendrai 8 jours et viendrai chercher l'insolent. »
« Je vous conseille, » dit froidement M. Koff, de faire laver votre calèche à la première poste, de continuer comme si de rien n'était, et de ne dire jamais un mot de cette aventure à qui que ce soit, car tout le monde rirait.
« Quoi ? » dit Leven. « Vous voulez que je supporte toute ma vie cette idée d'avoir été insulté impunément ? » ?»«
Si vous avez la peau si tendre au mépris, pourquoi quitter Paris ? » ?»«
Quel quart d'heure nous avons passé à la porte de cet hôtel ! Ce sera comme un fer rouge qui me brûlera toute ma vie. »
Ce qui rendait l'aventure piquante, dit M. Koff, c'est qu'il n'y avait pas le moindre danger, et nous avions tout le loisir de goûter le mépris. La rue était pleine de boue, mais parfaitement pavée, pas une seule pierre de disponible. C'est la première fois que j'ai senti le mépris. Quand j'ai été arrêté pour Sainte-Pélagie, 3 ou 4 personnes seulement s'en sont aperçues. Comme je montais en fiacre, un peu aidé, et l'une a dit, avec beaucoup de pitié et de honte, « Le pauvre diable !»
Leven ne répondait pas. Koff continua à penser tout haut avec une cruelle franchise.
« Ici, c'était le mépris tout pur. Cela m'a fait penser au mot célèbre. On avale le mépris, mais on ne le mâche pas. »
Ce sang-froid rendait Leven fou. S'il n'eût été retenu par l'idée de sa mère, il eût déserté actuellement sur la grande route, se serait fait conduire à Rochefort, et de là, il était facile de s'embarquer pour l'Amérique, et sous un nom supposé. Au bout de 2 ans, je pus revenir à Blois et donner des soufflets au jeune homme le plus marquant de la ville. Cette tentation le dominait trop. Il avait besoin de parler.
« Mon ami, dit-il à Koff, je compte que vous ne rirez avec personne de mes angoisses.
Vous m'avez tiré de Sainte-Pélagie, où j'aurais dû faire mes 5 ans, et il y a plusieurs années que nous sommes liés.
Eh bien, mon cœur est faible, j'ai besoin de parler. Je parlerai si vous me promettez une discrétion éternelle.
je le promets. »
Leven expliqua tout son projet de désertion et finit par pleurer à chaudes larmes.
« J'ai mal conduit toute ma vie, » répéta-t-il plusieurs fois. « Je suis dans un bourbier sans issue. »
Soit, mais quelque raison que vous ayez, vous ne pouvez pas déserter au milieu de la bataille, comme les Saxons à Leipzig, cela n'est pas beau, et vous donnerez des remords par la suite, du moins je le crains. Tâchez d'oublier, et surtout pas un mot à M. Riquebourg, le préfet de Champagné. »
Après cette belle consolation, il s'établit un silence de 2 heures. On avait à faire une poste de 6 heures. Il faisait froid, il pleuvait un peu, il fallut fermer la calèche. La nuit tombait, le pays qu'on traversait était stérile et plat, pas un arbre. Pendant cet éternel poste de 6 lieues, la nuit se fit tout à fait, l'obscurité devint profonde. Koff voyait Leven changer de position toutes les 5 minutes.
Il se tord comme Saint-Laurent sur le grill. Il est fâcheux qu'il ne trouve pas de lui-même un remède à sa position.
L'homme dans cet état n'est pas poli, se dit Koff un quart d'heure après.
Cependant, ajouta-t-il après un nouveau quart d'heure de réflexion et déduction mathématique, je lui dois de m'avoir tiré de cette chambre de Sainte-Pélagie, grande à peu près comme cette calèche. Exposons-nous au coup de boutoir de la bête fauve. Il n'a pas été régulièrement poli avec moi dans le dialogue qui a précédé. Toutefois, subissons l'ennui de parler, et à un homme malheureux encore, et qui pisait un beau fils de Paris malheureux par sa faute, malheureux avec de la santé, de l'argent et de la jeunesse à revendre. Quel sot! Comme je le haïrais! Mais il m'a tiré de Sainte-Pélagie. À l'école, quel présomptueux et surtout quel bavard! Parler, parler, toujours parler. Mais cependant, il faut l'avouer, et cela fait un fameux point pour lui. Pas le moindre mot inconvenant quand il a eu le caprice de me tirer de Sainte-Pélagie. Oui, mais pour me faire apprenti bourreau. Le bourreau est plus estimable. C'est par pur enfantillage, par suite de leurs sottises ordinaires que les hommes l'ont pris en grippe. Il remplit un devoir nécessaire, indispensable. Et nous, nous qui sommes sur la route de tous les honneurs que peut distribuer la société, nous voilà en route pour faire une infamie nuisible. Le peuple, qui se trompe si souvent, par hasard a eu toute raison cette fois. Dans cette brillante calèche anglaise si cossue, il découvre 2 infâmes et nous dit « Vous êtes des infâmes !»«
Bien dit !» pensa Koff en riant.
« Le peuple n'a pas dit à Leven « Tu es un infâme !» mais il a dit à nous deux « Vous êtes des infâmes !»
Et Koff pesait ce mot-là pour soi-même. À cet instant, Leven soupira à demi-haut.
Le voilà qui souffre de son absurdité. Il prétend réunir les profits du ministériel avec la susceptibilité délicate de l'homme d'honneur. Quoi de plus sot?
Eh, mon ami, avec l'habit brodé, prenez la peau dure aux outrages.
Cependant, l'on peut dire à sa décharge qu'il n'y a peut-être pas un de ces coquins d'agents du ministre qui souffre par ce mécanisme. Cela fait son éloge. Les autres savent bien à quelle mission ils s'exposent en demandant des places. Il serait bien qu'il trouvât le remède tout seul. L'orgueil, la joie de la découverte, diminuerait la douleur que fait le tranchant acéré du conseil en pénétrant dans le cœur. Mais ça est riche, ça est gâté par toutes les joies d'une belle position. Jamais il n'accouchera tout seul du remède, si toutefois il y en a un. Car du diable si je connais le fond de sa position. C'est toujours là qu'est le diable. Ce faquin de ministre le traite avec une distinction étonnante. Peut-être que le ministre a une fille, légitime ou bâtarde, dont il prétend l'embêter. Peut-être que Leven a de l'ambition. Ce doit être un homme à préfecture, à croix. un ruban rouge sur un frac bien neuf, et se promener, le jarret tendu sous la promenade des tilleuls de l'endroit.
« Ah, mon Dieu !» dit Leven à voix basse. « Le voilà sur la route du mépris public, comme dans mes premiers jours de Sainte-Pélagie, quand je pensais que les voisins de mon magasin pouvaient me croire un banqueroutier frauduleux. »
Le souvenir de cette vive douleur fut assez puissant pour porter M. Koff à parler.
« Nous ne serons pas en ville avant 11 heures. Voulez-vous débarquer à l'auberge ou chez le préfet ?»«
S'il est debout, voyons le préfet. »
Leven a fait la faiblesse de penser tout haut devant Koff. Il avait toute honte bue, puisqu'il avait pleuré. Il ajouta,
« Je ne puis être plus contrarié que je ne le suis. Jetons la dernière ancre de salut qui reste aux misérables. Faisons notre devoir. »
« Vous avez raison, » dit froidement Koff. « Dans l'extrémité du malheur, et surtout du pire des malheurs, de celui qui a pour cause le mépris de soi-même, faire son devoir et agir est en effet la seule ressource. Experto crede Roberto. Je n'ai pas passé ma vie sur des roses. Si vous m'en croyez, vous secouerez les oreilles et tâcherez d'oublier l'algarade de Blois. Vous êtes bien loin encore du comble des malheurs. Vous n'avez pas lieu de vous mépriser vous-même. Le juge le plus sévère ne pourrait voir que de l'imprudence dans votre fait. Vous avez jugé la vie d'un ministériel par ce qu'on voit à Paris, où ils ont le monopole de tous les agréments que peut donner la vie sociale. Ce n'est qu'en province que le ministériel voit le mépris que lui accorde si libéralement la grande majorité des Français. Vous n'avez pas la peau assez dure pour ne pas sentir le mépris public. Mais on s'y accoutume, on n'a qu'à mettre sa vanité ailleurs. Voyez, monsieur de N., on peut même observer à l'égard de cet homme célèbre que quand le mépris est devenu lieu commun, il n'y a plus que les sots qui l'expriment. Or, les sots, parmi nous, gâtent jusqu'au mépris.
Voilà une drôle de consolation que vous me donnez là, dit Leven assez brusquement.
C'est, ce me semble, la seule dont vous soyez capable. Il faut d'abord dire la vérité quand on entreprend la tâche ingrate de consoler un homme de courage. Je suis un chirurgien cruel en apparence. Je sonde la plaie jusqu'au fond, mais je puis guérir. Vous souvient-il que le cardinal de Retz, qui avait le cœur si haut, l'homme de France auquel on a vu peut-être le plus de courage, un homme comparable aux anciens, ayant donné d'impatience un coup de pied au cul à son écuyer qui faisait quelques sottises paumées, fut accablé de coups de canne et rossé d'importance par cet homme, qui se trouva beaucoup plus fort que lui. Eh bien, cela est plus piquant que de recevoir de la boue d'une populace qui vous croit l'auteur de l'abominable pamphlet que vous portez en Normandie. À le bien prendre. C'est à l'insolence si provocante de ce fade torpé qu'on a jeté de la boue. Si vous étiez anglais, cet accident vous eût trouvé presque insensible. Lord Wellington l'a éprouvé 3 ou 4 fois en sa vie. Ah, les Anglais ne sont pas des juges fins et délicats en fait d'honneur, comme les Français. L'ouvrier anglais n'est qu'une machine. Le nôtre ne fait pas si bien sa tête d'épingle, mais c'est souvent une sorte de philosophe, et son mépris est affreux à supporter. »
Leven continua quelque temps de parler avec toute la faiblesse de l'homme réduit au dernier degré du malheur.
Koff lui prit la main, et Leven pleura pour la seconde fois.
« Et ce lancier qui m'a reconnu ? On a crié « À bas, Leven !»«
Ce soldat a appris au peuple de Blois le nom de l'auteur de l'infâme pamphlet de Torpé. »
Mais comment sortir de la boue où je suis plongé au moral comme au physique ?
S'écria Leven avec la dernière amertume.
Encore enfant, continua-t-il un instant après, j'ai fait ce que j'ai pu pour être utile et estimable. J'ai travaillé 10 heures par jour pendant 3 ans pour entrer à l'école polytechnique. Vous avez été reçu avec le numéro 4 et moi avec le numéro 7. À l'école, surcroît de travail, impossibilité de distraction. indignés par une action infâme du gouvernement, nous paraissons dans la rue.
Faute de calculs ridicules, surtout chez des mathématiciens, nous étions 250 jeunes gens. Le gouvernement nous a opposé 12 000 paysans incapables du moindre raisonnement, et que cette chaleur de sang qui anime tous les Français à l'aspect du danger fait excellents soldats. Nous sommes tombés dans la même erreur que ces pauvres seigneurs russes en 1826.
Le taciturne Koff bavardait pour distraire Leven, mais Koff s'aperçut que Leven ne l'écoutait plus.
Indigné d'être oisif et peu estimable, j'ai pris l'état militaire. Je l'ai quitté pour une raison particulière, mais je l'aurais quitté tôt ou tard pour n'être pas exposé à sabrer des ouvriers. Voulez-vous que je devienne un héros de la rue Transnonain? Cela est pardonnable à un soldat qui voit dans les habitants de cette maison un russe qui défend une batterie ennemie. Mais dans moi, officier, qui comprend?
Eh bien, cela est bien pique de recevoir de la boue à Blois de gens que leur préfet, M. de Nontour, a dupé de la façon la plus irritante lors d'une élection partielle, il y a un an. Vous vous rappelez qu'il a placé sur le pont de la Loire des gendarmes qui ont demandé leur passeport aux habitants du faubourg qui venaient voter en ville. Et comme aucun n'avait de passeport, on les a empêchés de passer. Convenez que ces gens-là, trouvant l'occasion de se venger de M. de Nontour en votre personne, ont bien fait.
Ainsi, le métier de soldat conduit à une action comme celle de la rue Transnonain. Faut-il que le malheureux officier qui attendait l'époque de la guerre dans un régiment donne sa démission au milieu des balles d'une émeute?
Non, parbleu, et vous avez bien fait de quitter.
Me voici dans l'administration. Vous savez que je travaille en conscience de 9 heures du matin à 4. J'expédie bien 20 affaires, et souvent importantes. Si à dîner je crains d'avoir oublié quelque chose d'urgent, au lieu de rester auprès du feu avec ma mère, je reviens au bureau, où je me fais maudire par le commis de garde, qui ne m'attend pas à cette heure-là. Pour ne pas faire de la peine à mon père, et aussi un peu par la peur que j'ai de discuter avec lui, je me suis laissé entraîner dans cette exécrable mission. Me voilà occupé à calomnier un honnête homme, M. Mérobert, avec tous les moyens dont un gouvernement dispose. Je suis couvert de boue, et on me crie que mon âme est sur ma figure. Ah !
Et Leven se tordait en allongeant les jambes dans la calèche.
Que devenir ? Manger le bien gagné par mon père ? Ne rien faire ? N'être bon à rien ? Attendre ainsi la vieillesse en me méprisant moi-même et m'écriant « que je suis heureux d'avoir un père qui value mieux que moi ». Que faire? Quel état prendre?
Quand on a le malheur de vivre sous un gouvernement fripon, et le second malheur, fort grand à mon sens, de raisonner trop juste et de voir la vérité, on s'aperçoit que sous un gouvernement tel que le nôtre, pourri par essence, et plus que les Bourbons et Napoléon, car il trahit constamment son premier serment, l'agriculture et le commerce sont les seuls métiers indépendants. Je me suis dit, l'agriculture me jette au milieu des champs, à 50 lieues de Paris, parmi nos paysans qui sont encore des bêtes brutes. J'ai préféré le commerce. Il est vrai que dans le commerce, il faut supporter et partager certains usages sordides et affreux, par manque de la plus vulgaire générosité, établie par la barbarie du XVIIe siècle et soutenue aujourd'hui par les gens âgés, avares et tristes, qui sont le fléau du commerce. Ces usages sont comme les cruautés du Moyen-Âge, qui n'étaient pas cruautés de leur temps, et ne sont devenues telles que par les progrès de l'humanité. Mais enfin, ces usages sordides, dût-on finir par les trouver naturels, valent mieux que d'égorger des bourgeois tranquilles rue Transnonain, ou, ce qui est pire et plus bas encore, justifier de telles choses dans les pamphlets que nous colportons.
Je devrais donc changer une troisième fois d'état.
Vous avez un mois pour songer à cela. Mais déserter au milieu du combat, ou vous embarquer à Rochefort, comme vous en avez l'idée, vous donne aux yeux de la société une teinte de folie pusillanime, dont vous ne pourrez jamais vous laver. Or, aurez-vous bien le caractère de mépriser le jugement de la société au milieu de laquelle vous êtes né? Lord Byron n'a pas eu cette force. Le cardinal de Retz lui-même ne l'a pas eu. Napoléon, qui se croyait noble, a frémi devant l'opinion du faubourg Saint-Germain. Un faux pas dans la situation où vous vous trouvez vous conduit au suicide. Songez à ce que vous me disiez il y a un mois de la haine adroite du ministre des Affaires étrangères à la tête de ses 40 espions de bonne compagnie. Après avoir fait l'effort de parler aussi longtemps, Koff se tut, et quelques minutes après, on arriva à la ville, chef-lieu du département du Cher.